entendre un message de Laurent ce matin, je vous prie de m'excuser. En fait, c'est juste une inversion de dernière minute qui n'est pas remontée jusqu'à l'équipe des annonces. Mais bon, nous allons parler de lire la parole. Et c'est ça le plus important. Je vous invite à prier. Oui, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce temps de lecture et de partage de ta parole. Nous te prions de nous convaincre par ta parole. Par la puissance de ton Esprit Saint, enseigne-nous ta vérité. Nous te soumettons nos cœurs, nos pensées, nos désirs. Touche-nous vraiment dans notre être. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Tout ce que nous faisons dans la vie découle de notre identité. Que pensez-vous de cette affirmation? Est-elle exagérée? Pour ma part, je dirais qu'elle n'est pas exagérée, car notre identité, ou la façon dont nous voyons notre identité, impacte fortement ce que nous faisons, ce que nous ressentons et nos activités. Pour être un peu plus concret sur cette idée, ce matin, par exemple, je me suis levé, je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche, puis le petit déjeuner. J'ai fait cela parce que je me vois comme un être humain qui a besoin de ces choses pour vivre. Parce que je me vois aussi comme père et mari, j'aide à la maison pour les tâches domestiques et mes émotions et ce que je fais sont fortement impactés par ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. Parce que je me considère comme membre de cette assemblée, j'essaie de participer à la vie de l'Église et je vous avoue que j'apprécie de prendre du temps et de m'édifier avec vous, louer le Seigneur avec vous. Et cela m'amène à la question suivante. Que se passe-t-il alors si la perception de notre identité n'est pas la bonne? Si elle était faussée ou si elle était biaisée, que se passerait-il? Je n'ai pas la prétention en 20-25 minutes de vous faire traiter la question de qui suis-je, car c'est une question qui est très complexe et multiforme. Je nous invite tout simplement ce matin à se poser la question, à nous demander, est-ce que nous avons en nous l'identité, l'essentiel qui fait la différence et qui façonne tout le reste. En tout cas, savoir qui nous sommes, selon Dieu, c'est quelque chose qui peut changer notre vie. J'ai toujours ce problème-là. Ah! Et pourtant, je me suis entraîné tout à l'heure. Ça y est! Je suis sur la diapositive 2. Je vous invite donc à ouvrir nos Bibles et à lire ensemble un texte court dans Éphésiens 1. Nous lirons les deux premiers versets de ce livre d'Éphésiens. Et je vous invite à, si vous n'avez pas votre Bible, à suivre donc ce verset que je mettrai sur l'écran. Et si on m'avait demandé de donner un titre à cette méditation de ce matin, je l'aurais certainement intitulé « Grâce et paix pour les saints ». Et ce message se limite au prologue les deux premiers versets du livre d'Éphésiens. Et pour situer très rapidement le contexte du livre d'Éphésiens, Éphèse, c'est une ville qui est située quelque part là où se trouve l'actuelle Turquie. Et Paul avait séjourné au moins deux fois à Éphèse, où il a établi et fortifié une église, une jeune église qu'il avait à cœur. Et dans ce prologue du livre d'Éphésiens, Paul écrit à cette église, comme il a écrit à beaucoup d'autres églises, on en a entendu quelques lectures ce matin, une lettre depuis sa prison, probablement quelque part à Rome. Et que dit-il dans le premier verset de cette lettre? Il dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il s'agit donc d'une présentation et d'une salutation que Paul envoie. Et si j'essaie de vous faire cette présentation et salutation de Paul en version moderne, texto, si je le fais en version modèle, cela donnerait « Salut, c'est Paul ». C'est Paul qui vous envoie un petit coucou. Il envoie un petit coucou aux Éphésiens d'Éphèse. « Pense à vous, bisous ». Vous conviendrez avec moi qu'une telle présentation et une telle salutation est effectivement très, très restreinte. Et que dans cette salutation, il y a certainement beaucoup de choses qu'on peut tirer. Regardons d'abord ce que Paul dit qu'il est. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Christ, par la volonté de Dieu. Paul se voit et se reconnaît comme apôtre à cause d'une seule chose. Et cette seule chose, nous dit le texte, c'est par la volonté de Dieu. Savez-vous que c'est exactement la même chose pour tous les chrétiens? Peu importe qui nous sommes, ce que nous avons fait, peu importe d'où nous venons, où nous en sommes maintenant, nous sommes qui nous sommes en Christ par la volonté de Dieu. C'est la première grande pensée que m'inspirent les deux versets de méditation de ce matin. Nous sommes qui nous sommes en Christ par la volonté de Dieu. C'est vrai, nos antécédents familiaux, notre culture, notre éducation spirituelle, tout ça façonne de façon importante ce que nous sommes. Si nous revenons à Paul, c'est quelqu'un qui avait un parcours fort bien rempli. Il aurait pu sortir de belles références pour se présenter. Et pourtant, il ne donne qu'un détail. Il est apôtre par la volonté de Dieu. Le livre des Actes que certains groupes de maisons étudient nous dit que Paul était l'un des ennemis les plus féroces contre les chrétiens et l'Église naissante de Christ. Et pourtant, Jésus l'a arraché de sa route et l'a mis sur une voie opposée à ce que lui, il avait choisi. Jésus lui a dit, Paul, maintenant, tu vas venir, tu vas me servir. Tu es l'instrument que j'ai choisi pour annoncer le message du salut aux païens. Pour lui, c'était un miracle qu'il soit devenu comme il était, et cela non pas à cause de son bilan, ni de son parcours, mais à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et comme Paul, si Dieu ne nous avait pas arrachés de notre route de destruction, nous serions encore perdus et séparés de Dieu. Et je crois que beaucoup d'entre nous ici peuvent en témoigner. L'idée qui ressort de ce verset 1, à savoir que nous sommes qui nous sommes en Christ par la volonté de Dieu, c'est une idée facile à accepter, à dire, quand on parle de la conversion ou quand tout roule bien pour nous. Mais je crois que cela devient plus difficile à accepter et à comprendre quand on est dans les difficultés. Et je sais que certains d'entre nous ici, aujourd'hui, passent par la maladie ou le découragement ou la solitude ou des moments une solitude vraiment amplifiée aussi par le Covid que nous connaissons. Pour d'autres, c'est peut-être la négativité ou la situation mondiale dont on a parlé tout à l'heure en Ukraine qui les travaille. Pour certains, c'est tout simplement difficile de joindre les deux bouts financièrement. Pour d'autres, ce sont des difficultés de famille, des enfants, leurs études, leurs projets, leur travail ou tout simplement le deuil. Et dans ces situations diverses que nous pouvons rencontrer, dire que vous êtes qui vous êtes par la volonté de Dieu, ce n'est pas facile à recevoir. Et pourtant, c'est ce que nous renvoie ce texte. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer de ces situations? Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier pour nous? En tout cas, une piste que nous pouvons éliminer en s'appuyant sur la parole, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans des situations difficiles, dans l'anxiété, pour son pur plaisir. Cela m'amène à dire que Dieu a certainement de bonnes raisons qui nous dépassent et pour nous placer dans une situation difficile. Et cela peut être une marque de son amour pour nous. Cela peut être soit pour nous apprendre quelque chose de précis, ou cela peut être pour se révéler à d'autres à travers nos difficultés et montrer ainsi sa puissance et sa gloire. En tout cas, Paul, il vit ça comme... c'est par la volonté de Dieu. Et soyons donc comme Paul, comme l'argile dans les mains du Dieu créateur, et plaçons en toutes circonstances notre confiance en Jésus-Christ. Que ce soit dans nos difficultés physiques ou spirituelles, prenons courage et puisons vraiment nos forces en Jésus-Christ. Car ce à quoi Dieu nous appelle, il nous équipera pour le faire. En tout cas, quand je préparais ce message, cela m'a fait penser à un vieux chant qui dit ceci. Si la mer se déchaîne, vous le connaissez, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, est-ce que vous savez? Il a dit, allons sur l'autre bord. Cette vérité signifie que nous ne sommes pas définis par nos luttes. Nous ne sommes pas définis par nos problèmes ou notre situation du moment. Notre véritable identité est en Jésus-Christ. Nous revoyons cela dans la suite du verset 1 qui dit « Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Pensez-vous que Paul s'adresse ici à des chrétiens particulièrement saints, à des gens qui des super fidèles à Jésus-Christ? Non, pas du tout. Dans l'Ancien Testament, le terme « saint » était souvent utilisé pour Israël, pour les prêtres et pour les anges. Et dans le Nouveau Testament, le terme « saint » désigne « peuple mis à part ». L'identité de chaque croyant en Christ est celui d'un saint, celui d'une personne mise à part à cause de Jésus-Christ qui purifie et qui met à part pour son service. Cette idée m'a fait faire un jeu pendant la préparation de ce message, un petit jeu que je vous propose de faire dans votre tête, si bien sûr vous croyez par la foi en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est votre sauveur. Je vous invite à faire ce petit jeu dans votre tête avec moi. Dites dans votre tête, je suis saint, et ajoutez votre prénom. À la suite, dit « Je suis ça ». Si vous croyez en Jésus, qu'il est votre sauveur, dites « Je suis ça ». Et ajoutez votre prénom à côté dans votre tête. Je l'ai fait l'exercice. Qu'est-ce que cela t'a fait de t'entendre dire « Je suis ça » avec ton prénom à côté? As-tu eu le sentiment d'être prétentieux ou d'être l'enfant d'un riche héritier? En tout cas, cela ne veut pas dire que tu es arrogant ou tu es une personne extraordinaire. Cela veut simplement dire que tu es extraordinairement aimé et béni de Dieu. Tu es un héritier du Christ. Et toutes les bénédictions que Dieu donne à Christ sont aussi pour toi. Si nous regardons de près, Paul ici, il n'a pas seulement appelé les chrétiens, les croyants des saints, il les a aussi appelés des fidèles en Jésus-Christ. Et certaines versions le traduisent par « à tous ceux qui ont la foi chrétienne ». Les croyants d'Éphèse sont restés fidèles en Jésus-Christ car ils ont gardé une communion vivante et sanctifiante en Jésus-Christ. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit continue à œuvrer dans son église locale ici à Bissy pour nous garder dans sa communion, nous aider à avoir une communion vivante et sanctifiante avec Jésus-Christ. On peut se demander que signifie être en Jésus-Christ, car c'est une expression qu'on retrouve très souvent qui revient souvent dans le livre des Éphésiens. Cela signifie être uni à Christ, être intimement uni à lui comme une branche est liée à un arbre. Que ce soit individuellement ou en tant qu'Église, quand nous sommes unis à Christ, lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus. Est-ce que vous croyez en cela? Je ne pose pas cette question pour faire un reproche ou ni blâmer qui que ce soit, surtout si vous avez du mal à croire cela. Mais je pose simplement cette question pour m'adresser à toi, peut-être, qui évacue la question du salut en le reportant à plus tard. Dieu te tend encore aujourd'hui la main et t'invite à venir à lui. En reconnaissant ton état de pécheur devant lui et en croyant par la foi en la mort et la résurrection de Christ pour toi aussi. En tout cas, si tu veux répondre à cet appel, n'hésite pas à en parler avec Laurent ou avec des personnes du conseil ou même des personnes de l'Assemblée. Mais va en discuter. Être sauvé par Christ et uni à lui est la plus grande et la plus belle des choses qui puissent vous arriver. Mais cela ne veut pas dire que la vie est et sera toujours facile ou tranquille. Ce n'était pas le cas pour les croyants d'Éphèse, et je crois sans me tromper, cela n'est pas non plus le cas des chrétiens d'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que la même grâce qui nous a arrachés de notre route de destruction, elle est toujours là dans nos difficultés, dans les difficultés que nous traversons ou que nous allons traverser. Alors, louons Dieu. Louons-le pour sa grâce offerte en Jésus-Christ. Et juste après avoir appelé les Éphésiens saints et fidèles dans le verset 1, Paul dit ceci, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons là la seconde vérité principale à retenir dans ce court texte d'aujourd'hui. En tout cas, c'est la vérité qui m'a un peu bien parlé et que j'ai mis sur cette phrase, nous avons tout ce dont nous avons besoin, de la grâce et de la paix de Dieu en Christ. Nous avons là l'expression d'une espérance, l'expression d'une prière et d'une bénédiction. On peut se demander pourquoi Paul prie-t-il particulièrement pour la grâce et la paix. Je dirais parce qu'il sait que notre besoin vital, celui de notre Église, celui de notre monde, de notre société, se trouve dans la grâce et la paix que Dieu donne. La grâce, dans la Bible, fait référence à une faveur imméritée. Laurent nous l'a rappelé tout à l'heure. C'est Dieu lui-même qui est prêt à nous pardonner et à nous bénir, malgré le fait que nous n'arrivons pas à vivre dans la justice. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, verset 23. Et compte tenu du fait que nous ne méritions rien de bon, du fait de nos péchés, tout ce que Dieu nous donne est grâce. Vous vous dites peut-être, oui, ce dont j'ai besoin, moi, concrètement, pour vivre, c'est de l'air, de l'eau, de la lumière, un abri et un peu d'argent pour payer de la nourriture et quelques loisirs. Oui, je dirais, vous avez raison. Vous avez besoin de tout cela. Et j'ajouterais que tout cela sont déjà des grâces de Dieu. Car si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui vous accorde ce souffle de vie en vous. Personne n'est capable d'ajouter une seule seconde à sa propre vie, en se basant uniquement sur son vouloir. Le peu ou le beaucoup que vous avez, c'est une grâce de Dieu. Et je dirais qu'il y en a encore plus dans la grâce de Dieu. Il y a le pardon, en réponse à notre culpabilité et à nos écarts constants envers lui. Il y a la libération du pouvoir et de l'attraction du péché. Il y a la communion fraternelle et la communion entre peuples de Dieu. Il y a dans la grâce de Dieu le contentement au milieu de la souffrance. Il y a dans la grâce de Dieu l'espoir d'une vie éternelle face à la mort. Il y a la paix, la réconciliation au milieu d'un peuple déchiré par des conflits et la haine. Il y a dans la grâce de Dieu la sécurité, ce que j'appelle le shalom, ou ce beaucoup appellent le shalom, cette possibilité d'avoir la paix dans son cœur quand le chaos ou la peur, l'anxiété se pointent, surtout dans ces moments particuliers que nous connaissons, que l'actualité nous décrit, c'est où le spectre d'instabilité dans le monde, et même en France, ce spectre de cette période d'élection que nous allons traverser, que Dieu nous donne ce shalom, cette paix que seul lui peut donner. Il y a dans la grâce la plénitude et l'harmonie qui guérit et cicatrise nos douleurs, les blessures les plus profondes de nos ruptures. Nous voyons dans la présentation et dans la salutation de Paul à l'église d'Éphèse que Christ est celui qui l'a sauvé et qui a remodelé son identité. De cela, Paul a expérimenté au quotidien la grâce et la paix tangible de Dieu. Ce n'était pas pour lui une notion théorique. C'est quelque chose de pratique qu'il a vécu. Et je nous invite vraiment à rendre cette grâce quelque chose de concret dans nos vies. J'écoutais il y a quelques jours de cela le témoignage d'une jeune fille lors de son baptême qui disait ceci. Une vie facile n'est pas la raison pour laquelle j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ parce que j'ai besoin de Jésus-Christ. Pouvez-vous dire cela? Pouvez-vous dire, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ parce que j'ai besoin de Jésus-Christ? Christ dans notre identité, Christ dans votre identité change et changera tout. Alors tendons la main à sa grâce et à sa paix et recevons tout ce dont nous avons besoin chaque jour en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier pour terminer ce message. Oui, Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous enseigne pour ce qu'elle contient. Oui, Dieu donne-nous de vraiment te découvrir, de savoir qui tu es. Donne-nous de te reconnaître et de vivre pleinement ton identité en nous. Oui, Dieu, transforme nos perspectives, transforme nos peurs, nos visions, nos opinions, nos pensées, et rends-les conformes à ta volonté dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.